bon pour moi. C'est vrai, Seigneur, tu es si grand et bon pour nous. Si nous pouvons nous retrouver en ces lieux, c'est parce que tu es bon, Seigneur, pour nous. Ton amour, ta grâce, tes bienfaits, Seigneur mon Dieu, nous ont accompagnés chaque jour, Seigneur mon Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons revenir encore dans ta présence, parce que nous savons que là, tu nous fais encore beaucoup de bien. Tu répands la vie, tu répands la bénédiction, tu répands, Seigneur mon Dieu, mon roi, des solutions à nos problèmes, et tu nous fortifies pour que nous puissions tenir encore. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu nous donnes. Nous prions pour que tu les bénisses, que tu diriges toutes choses, et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole trouve la place qu'il faut dans chaque cœur et qu'elle produise des fruits ou des effets pour lesquels toi tu l'as envoyé aujourd'hui. Seigneur, que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains et que ces instants servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Ce matin, j'aimerais commencer juste par quelque chose que nous vivons dans nos maisons ou que nous avons eu à vivre, parce qu'à mon âge, ce n'est plus ça que j'ai vu, mais j'ai eu à vivre ça. Y a-t-il des jeunes gens parmi nous? Il y en a. Levez un peu la main, je veux vous voir. Nous, les adultes, là, nous comprendrons ce que je veux dire. Par amour pour nous, les parents nous ont dit un jour ceci. Ne sortez pas la nuit ou revenez, par exemple, tôt. Et nous, nous avons dit, ah, papa exagère, maman aussi exagère, moi je sais. Qui a déjà eu un français comme ça? Quand les parents ont parlé, ils ont dit, moi je sais. Je connais comment je vais me protéger. Mais le papa ou la maman est en train de parler par amour pour toi, parce qu'il veut te protéger. N'est-ce pas que nous sommes passés par ça? Il y a des moments où, en tout cas, ça nous révolte même, on réagit. Mais c'est plus tard. Plus tard qu'on s'est dit, ah, si j'avais écouté, si j'avais écouté. Et bien aimé, j'étais en train de réfléchir par rapport à notre Dieu. J'ai trouvé que Dieu était un meilleur parent. Il nous aime. Il nous aime vraiment. Et son amour se manifeste par le fait qu'il nous a donné sa parole. Oh, peut-être aujourd'hui je ne vois pas la valeur de cette parole. Comme ces parents-là qui a dit à son enfant, ne fais pas. L'enfant a fait parce que l'enfant savait. Et Dieu nous a donné sa parole, par amour pour nous. Pour dire tout simplement, tellement je t'aime mon fils, ma fille, je veux te protéger. Tellement je t'aime mon enfant, je veux que tu puisses être béni. Tellement je t'aime mon enfant, je te veux un jour à mes côtés. Par amour pour toi, Dieu a donné sa parole. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Parce que si nous sommes conscients, la façon dont nous recevons la parole de Dieu sera différente de la façon dont nous les faisons. Mais malheureusement, nous souvent nous sommes dans « je sais ». Non, Dieu va comprendre. Ce matin, j'aimerais juste partager avec nous un verset qui m'a vraiment, moi personnellement, interpellé. Mais qui démontre aussi l'amour de Dieu pour nous. Je suis dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Nous allons en lire deux. Hébreux 9, 27, et ensuite nous prendrons Ecclésiaste 12, 3. Hébreux 9, 27, la Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient les jugements. » Oh, papa, tu m'informes qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi il y a les jugements? Oui, je t'informe. Papa nous informe. Et j'étais tenté de donner comme thème à mon message de ce matin. Attention, attention, alerte. C'est ce que j'étais tenté de donner. Mais là, sur mon truc, j'ai écrit « prépare-toi ». Mais sinon, c'est lui qui me monte dans le cœur. C'est attention, attention, alerte. Papa nous interpelle. Papa nous interpelle. Ecclésiaste chapitre 12, verset 3. La Bible dit, vous pouvez commencer la lecture au verset 1, mais je prends 3 parce que à cause du temps. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. C'est-à-dire, la vieillesse était en train de tendre déjà vers la fin de tes jours. Quand on parle des jours de ta jeunesse, ça dépasse les 25 ans. On peut aller même jusqu'on dit jeune jusqu'à 77 ans. Souviens-toi de ton Créateur pendant tous ces temps. Souviens-toi. Mais est-ce que dans la vie courante, chaque pas que j'ai fait, chaque chose que j'ai fait, est-ce que je me souviens de mon Créateur? Oh, souvent nous l'oublions, n'est-ce pas? Nous oublions même que Dieu existe. Frères, sœurs, ce passage nous parle d'un futur proche et d'un futur lointain. Proche et lointain. Proche parce que ça nous parle de la mort. Lointain parce que ça nous parle du jugement. Hein? Ça nous parle de ces deux choses. Mais regardez, remarquez avec moi que ceci concerne et les chrétiens et les païens. Nous sommes tous dans cela. Vous allez vous comprendre pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, cette interpellation mérite et exige que nous puissions y prêter attention. J'espère que vous me comprenez pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi? Je vais essayer de parler de deux choses pour vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Donc, je relève deux points. Alors, je disais, cette interpellation mérite et exige notre attention. Alors, je vais vous proposer pour cela deux points. Comment nous devons faire attention? La première chose, si la Bible m'informe en disant il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient les jugements. Alors, première chose, c'est qu'est-ce que moi je dois faire maintenant? Ce que moi je dois faire, c'est quoi? Et la deuxième chose, pourquoi je dois le faire? Ce que je dois faire maintenant. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que toi et moi nous avons à faire, c'est nous préparer. Donc la préparation. Nous préparer. J'aimerais que nous puissions aussi remarquer. On a dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette préparation, c'est une préparation qui est individuelle. Ce n'est pas que tout le monde se prépare en même temps. Ce n'est pas qu'une famille se prépare. Non, c'est dit chacun pour soi. Chacun pour soi. Tous, nous avons eu la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous a parlé du Seigneur. C'est comme ça que nous avons reçu le Seigneur. Mais maintenant, la suite de ma vie, j'ai dit bien, après avoir reçu le Seigneur, dépend de moi. Ça ne dépend plus de quelqu'un d'autre, c'est moi. L'autre a déjà fait sa part, mais la suite, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. La Bible dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Lisez tous les contextes, et là vous allez peut-être mieux me comprendre. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Tu l'as reçu. Mais maintenant, tu dois faire attention à la manière dont toi, tu es en train de bâtir sur ces fondements. C'est la préparation. Or, dans la préparation, beaucoup de gens sont négligents. Beaucoup de gens sont dans « je sais, je connais comment je vais faire pour me protéger, je sais ». Mais dans les GC, là, souvent, c'est en retard que nous regrettons. Frères, sœurs, dans notre marche de tous les jours, Dieu permet des situations, des enseignements, pour que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. Vous voyez? Notre thème, c'est plus près de lui, de l'année. Donc, Dieu permet des situations pour que tu puisses encore venir plus près de lui. Mais malheureusement, nous ne faisons même pas attention. J'aime les textes de Amos chapitre 4 que vous pouvez aussi lire. Amos chapitre 4, la Bible peint là un tableau des personnes qui ont eu des problèmes. Dieu a permis, et la Bible le dit clairement, Dieu a permis certaines situations dans les vies. Mais il se fait que la Bible déclare que ces gens-là ne sont même pas revenus au Seigneur. Frère, sœur, j'aimerais te dire, tu es malade, tu as je ne sais pas moi quelle difficulté, tu as je ne sais pas moi quelle situation. Ne prends pas ça seulement pour un problème que tu as. Prends ça pour quelque chose qui doit t'attirer, te ramener, te rapprocher davantage de Dieu. Que ce soit le chômage, que ce soit des problèmes en famille, nous les chrétiens, nos problèmes, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des ponts qui nous aident non seulement à aller de l'avant, mais à nous rapprocher de notre Père. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de baisser la tête. Relève ta tête, continue à marcher, même si le monde se moque de toi. Toi ne regarde pas au monde, toi regarde à celui qui t'a appelé. Tu n'es pas ici parce que quelqu'un t'a appelé, non. C'est parce que le fondement qui a été posé t'a attiré là où sa parole est prêchée. Frères, sœurs, relevons nos têtes. Parce que lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, dans Amos 4, 12, la Bible dit à toutes ces personnes qui n'ont pas compris pour revenir à Dieu, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », pour moi, je me dis c'est très sérieux. Dites-moi qui peut plaider avec Dieu et qui aura raison. Dites-moi qui peut le faire. Déjà, lorsqu'il s'élève seulement, moi je vois toute ma saleté. Malgré le fait que nous disons, moi je marche dans la crainte de Dieu, mais Dieu est tellement saint que qui peut résister dans sa présence? J'étais en train de réfléchir sur l'histoire de Job. Job, à la fin de son livre, la Bible dit, Dieu lui a apparu et il a parlé avec Dieu. Mais Dieu lui a dit, Job, mets-toi là et moi et toi, hein, je me dis dans mes mots, moi et toi nous allons discuter. Tu vas me prouver. Job qui prouvait à ses trois amis que lui n'a pas péché. Job qui prouvait à ses trois amis que lui connaissait Dieu. Job qui prouvait autant de choses à ses trois amis. Quand Dieu a dit, mets-toi là, tu vas me démontrer ce que tu dis et tout. Job a dit quoi? Je ne peux même pas oser. Hein? Je ne peux même pas oser. Tu es tellement saint, tu es tellement grand, tu es tellement tout, que moi je ne vois même pas ce que je vais te dire. Qu'est-ce que je vais te dire? Frères, sœurs, qui peut oser tenir devant ces dieux? Qui peut oser? Nous sommes appelés à nous préparer tout simplement. Job n'a pas pu. Heureusement pour lui. Parce que qu'est-ce qu'il pouvait dire à Dieu? Tu es injuste, Dieu n'a jamais été injuste. Tu es menteur, Dieu n'a jamais été menteur. Tu vas lui dire quoi? Il est et il demeure Dieu et il est saint. Mais la grande question, comment je vais me préparer? J'ai dit qu'on doit se préparer, mais comment je vais me préparer? La première chose que je vais te proposer pour que tu te prépares, c'est la consécration. La consécration. La consécration, bien aimé, c'est l'action de se donner à Dieu. Je me donne à Dieu. Tout commence avec l'acceptation de Christ. Quand j'accepte Christ, l'étape suivante, c'est accepter de me donner à Dieu. Comment j'accepte de me donner à Dieu? Sinon, accepter de se conformer à ses principes. J'accepte de me conformer aux principes de Dieu. Les principes de Dieu sont où? Sinon dans sa parole. Voyez, j'accepte maintenant de marcher avec Dieu. C'est un peu comme cette femme-là qui se marie. Cette femme qui se marie adhère au principe du mari. Même si ils vont débattre de certaines choses, trouver des compromis, mais il y a cette adhésion-là. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous venons au Seigneur, nous aussi nous disons, Seigneur, je me donne à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Et lui dit ceci aussi, que je vais paraphraser, Deutéronome chapitre 4, verset 20. Et vous pouvez aussi lire Deutéronome chapitre 7, verset 6. Dieu dit qu'il s'est choisi le peuple d'Israël pour qu'il puisse lui appartenir en propre. Oui. Et ça, j'aime beaucoup cette expression, lui appartenir en propre. C'est-à-dire là, il y a une exclusivité. Donc Dieu a exclu toutes les autres possibilités. Si moi je l'ai reçu, c'est-à-dire il désire que moi je puisse lui appartenir à lui et à lui seul. Il ne veut pas me partager avec quelqu'un d'autre. Mais combien de chrétiens partagent Dieu avec quelqu'un d'autre? Et ils se disent être chrétiens. Dieu te veut pour lui et lui seul. Il ne veut pas te partager avec n'importe quoi, n'importe qui. Il te veut pour lui et lui seul. C'est comme ça que la Bible dans Deutéronome 20 va parler de Dieu qui est un Dieu jaloux. Frères, sœurs, lorsque tu viens à Christ, c'est volontairement, par amour pour lui, que tu t'offres à lui. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tu te donnes à lui, tu te consacres à lui. C'est très important dans la marche avec Dieu. C'est très important, surtout que nous sommes en train de tendre vers le moment de son retour. Frères, sœurs, soyons prêts. Que ce soit la mort, que ce soit le retour de Christ, que rien ne me sépare de son amour. Frères, sœurs, notre vie, je dis bien notre vie. Quand je dis notre vie, c'est-à-dire pas ma vie à l'église. À l'église, tu n'as pas de vie. Tu viens t'asseoir, amen, amen, on sort, on se salue, on part. Mais ma vie là de tous les jours, hein, démontre la qualité de ma consécration. Ma vie là de tous les jours, ça démontre la qualité de ma consécration et la place que je donne à Dieu dans ma vie. Or, quelle est la place que tu dois donner à Dieu dans ta vie? La première, n'est-ce pas? La première place dans ma vie, c'est Dieu qui l'occupe. Et si Dieu occupe la première place, donc ça doit se voir. Mais comment est-ce que toi tu mènes ta vie? Matthieu 22, 37. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout mon être démontre mon amour pour Dieu. Tout mon être. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez quoi? Naturellement, je dis bien naturellement, il pourrait y avoir des exceptions, mais naturellement, l'être humain est égoïste ou égocentrique. Souvent, c'est moi, 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 n'est-ce pas? Ou bien vous raisonnez autrement. Souvent, on pense à soi d'abord. Hein? Naturellement, l'être humain est égoïste ou égocentrique. Mais dans la marche avec Dieu, nous devons nous surpasser. Nous devons nous surpasser pour donner à Dieu la première place. Et ça, c'est tout un exercice. Vous vous souvenez de la veuve de Sarepta? Quand il a reçu le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu lui a dit, d'abord moi, représentant de Dieu, d'abord moi. 1 Roi chapitre 17, verset 13. D'abord moi. Et quand elle a fait d'abord pour Dieu, les miracles, ça n'est suivi. Tu cherches les miracles,
Tu cherches la solution à ton problème. Tu cherches la bénédiction. C'est simple, d'abord Dieu. Mets Dieu à sa place dans ta vie. Et si tu mets Dieu à sa place dans ta vie, tu vas commencer à vivre maintenant des miracles. Mets d'abord Dieu à sa place. Bien aimé, après la consécration, il y a la marche dans la sanctification. La marche dans la sanctification. La marche dans la sanctification, c'est-à-dire ma marche de tous les jours, là, ma vie de tous les jours, à la cité, à l'école, au marché, au travail, au bureau, je dois moi marcher dans la sanctification. Vous voyez? La marche dans la sanctification. 1 Pierre 1, 14 à 16. La Bible dit, comme des enfants obéissants, 1 Pierre 1, 14 à 16, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Oh, quand vous étiez païen, quand vous ne me connaissez pas, vous aviez des convoitises, ne vous conformez pas. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Vous voyez? Avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais une façon de faire, j'avais une façon de vivre, j'avais une façon de parler, j'avais une façon, vous pouvez ajouter tout. Mais maintenant que je connais le Seigneur, la Bible me dit de ne plus me conformer à ce passé-là, mais maintenant de marcher vraiment selon Dieu, être saint. Sois saint tous les jours. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commettre l'accident des péchés. Mais ça ne doit pas être un accident volontaire. Ça doit être vraiment un accident. Oui. Soyez saints. Ce passage ici de 1 Pierre est tiré de Lévitique 19. Tiré de Lévitique 19, 1. Mais ici, bien aimé, remarquez avec moi qu'on a ajouté un élément, la conduite. La conduite. Ma façon de me conduire, ma façon de marcher, je dois toujours être sainte. Tout le jour. C'est possible avec notre Dieu. Mais remarquez avec moi aussi ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Toujours parlant de la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. J'espère que vous me comprenez. Essaye de voir ta marche. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est la parole de ton Père. C'est ce que ton Père t'a laissé. C'est pas moi. Essaye de voir ta vie. Même lorsqu'on dit que vous vous absteniez de l'impudicité, tu peux ajouter les autres choses que tu connais. Et remarque avec moi, ces passages, j'ai pris 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Au 3, on dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 7, on termine avec la sanctification. C'est une façon d'insister. C'est une façon d'enfoncer vraiment les clous. Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les péchés. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Est-ce que tu peux marcher dans la sanctification? Bien-aimé, c'est possible dans ta marche de tous les jours. Le tout, c'est de t'abstenir. S'abstenir de quelque chose, c'est-à-dire je suis consciente de ce que j'ai comme problème et je refuse de faire la chose. Oui. Je refuse. Tu fais le premier pas avec Jésus, il va t'aider pour la suite. Mais si toi-même tu tombes dans la même chose, ne dis pas Seigneur viens m'aider, tu es déjà dedans. Non, avant que ça n'arrive, dès que la pensée commence, tu commences à combattre. Et c'est comme ça que tu auras la victoire, parce que tout commence là.
Oui.
Dès que la pensée te monte, toi tu commences déjà à combattre, tu commences à refuser la chose. C'est là même la bonne prière d'autorité. Des fois la prière d'autorité telle que nous la faisons, ce n'est pas ça. La bonne prière d'autorité, c'est la prière lorsque moi je sens que l'ennemi est en train de m'attaquer maintenant, je m'oppose.
Vous voyez?
Je résiste, je refuse la chose et cela n'aura pas d'effet sur moi. Mais nous, nous attendons de tomber ou nous tombons déjà et puis nous disons, Seigneur, viens me secourir. Des fois, il ne nous secourt pas parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait notre part. N'oublions pas, frères, sœurs, dans la marche avec Dieu, il y a ma part, il y a ta part. Pardon, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Dans la marche avec Dieu. Et nous sommes appelés à faire notre part pour permettre à Dieu de faire sa part. Mais si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas aussi. Il va attendre jusqu'à ce que tu apprennes à faire ta part. Comme ça, il va t'aider. Frères, sœurs, un autre verset, la marche dans la sanctification. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est pour dire quoi? L'opposé de la sanctification, c'est la vie des péchés. Tu es soit de ce côté, soit de ce côté. C'est un choix. Sinon, tu vas venir même à la bannière. Tu vas faire 120 jours de jeûne. Tu vas faire je ne sais pas moi quoi. Quel exploit, selon toi. Mais, si tu vis dans les péchés, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, faisons un effort pour ne plus vivre dans les péchés. Chacun se connaît, chacun connaît sa marche, mais tous, nous sommes appelés à nous préparer au moyen de la consécration et de la marche avec Dieu. Vous pouvez ajouter d'autres commentaires, mais mon deuxième point, pourquoi dois-je le faire? Pourquoi dois-je me préparer? Pourquoi? Première raison que je vous donne, c'est la brièveté de la vie. La brièveté de la vie. Qui connaît la longueur de sa vie? Qui connaît? Il n'y a que Dieu. Il y a des gens, des fois, on regarde, on dit, il est parti très tôt, hein? Il était encore jeune, hein? Ah, c'était un enfant. Mais il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu. La brièveté de la vie. Et même lorsque nous allons vivre, comme dit le psaume 90, verset 10, ou 90, verset 10, comme ce psaume le dit, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Remarquez avec moi, pour ne prendre qu'un exemple. Dimanche passé, nous étions ici, n'est-ce pas? Vous avez constaté, pour qu'on arrive le dimanche d'aujourd'hui, ça fait combien de temps? C'est l'impression que tout est passé, pouf! Il n'y a pas très longtemps, ensemble avec vous, nous nous sommes réjouis ici de nos 40 ans de mariage. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Pour moi, c'est comme si c'était hier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours à 40? Nous avons dépassé 40. Ça passe vite. Ça passe vite. Lorsque je regarde les enfants qui sont nés quand cette église avait commencé, quand j'essaie de regarder ces enfants, même les enfants qui sont nés pendant que l'église avait commencé déjà, bien aimé, j'ai dit toujours, les jours passent trop vite. C'est pourquoi, vous voyez même les années de mariage là que nous avons, hein? Dans ta propre famille, tu vis jusque 25 ans, hein? En général, il y a des exceptions à toute règle, hein? Mais en général, c'est pendant 25 ans que je vis avec mes parents, et même je peux dire même c'est 18. Parce que quand je passe à l'université, je ne suis presque plus à la maison. Pourquoi? Je suis à l'université jusqu'à tard, j'ai des TP à faire, même quand je reviens, je suis enfermé dans la chambre parce que je dois travailler, je n'ai plus le temps vraiment avec la famille. Donc c'est 18 que nous vivons vraiment bien, 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 bien. Mais après ça, ça devient déjà un peu compliqué. 25 ans, on est obligé de partir. Si, avec le minimum de 25 ans, vous vous mariez, vous avez l'impression que nous avons encore beaucoup de jours devant nous. Mais la réalité, c'est pas beaucoup de jours. Ça passe tellement vite qu'on a l'impression que l'expérience d'hier, là, qui date d'il y a 10 ans, c'était hier que j'ai connu ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. La vie passe trop vite. Ça passe trop vite. Cette brièveté de la vie, là, et aussi, cette brièveté de la vie doit nous aider, nous, à être déjà préparés. Ça doit nous pousser à nous préparer. Parce que qui connaît les jours? C'est une autre raison, bien-aimé, qui me pousse, moi, à dire, ces choses doivent me pousser à me préparer. L'ignorance du jour et de l'heure, au cas où, par exemple, ce serait la mort, qui connaît les jours de sa mort? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Même si on nous dit, oh non, quand tu vas mourir, après tu vas renaître dans une autre famille. C'est pas ce que la Bible me dit. On me dit, oh, quand tu vas mourir, après tu vas renaître papillon. J'ai pas envie de devenir papillon. Vous voyez? J'ai pas envie, même pas de devenir singe. J'ai pas envie. Vous voyez? Mais la Bible me dit, après la mort, si tu étais chrétien, c'est dans les seins d'Abraham. Où tu vas aller? Donc, tout ça, ce sont des choses qui doivent me pousser à réfléchir pour me préparer. On ne connaît pas les jours. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je ne souhaite même pas partir maintenant. Mais au moins, Dieu me dit déjà, attention, attention. Attention, attention, devant toi là, attention. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui va arriver? Que ça ne soit pas trop tard. Double vie, ça ne marche pas. Tu vas te perdre toi-même. Il y a des choses, des fois, c'est quand on part dans le lieu de deuil. Toi, tu es parti pour pleurer ton frère, ta sœur. Tu arrives, tu commences à entendre ce qui s'est dit. Tu dis, il n'était pas frère. Elle n'était pas sœur. Mais elle était à l'église avec nous tout le temps. Qu'on ne dise pas ça de toi. Normalement, après une personne, vraiment, on doit respecter la personne. On doit pas respecter par hypocrisie. Mais on doit dire des bonnes choses parce que ta vie était bonne. Qu'on ne commence pas à dire des mauvaises choses. Frères, sœurs, la troisième petite raison, pourquoi moi je dois me préparer? On meurt une seule fois. On ne meurt pas deux fois, j'en ai parlé. Mais j'aimerais terminer avec cette raison qui est la plus grande. Pourquoi je dois me préparer? Parce que il y a un jugement. C'est ce que la Bible dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient les jugements. Bien-aimés, puisqu'il y aura jugement après la mort, même si nous venons même à la bannière ici, on dit on va t'enterrer même ici à l'estrade, ça ne changera rien. J'ai vu dans certains endroits où on a enterré les pasteurs devant l'église, ça ne sert à rien. Les corps retournent déjà à la poussière. Mais ce qui est à craindre le plus, c'est les jugements. C'est les jugements. Parce qu'il y aura jugement. Il y aura jugement, bien-aimé. Juste une petite parenthèse que je veux ouvrir. Vous savez, la Bible, dans la Bible, Dieu nous a donné l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à la fin, lorsque tout va se terminer, la nouvelle Jérusalem descend. N'est-ce pas que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Donc, c'est jusqu'à la fin que Dieu nous a donné. Depuis les débuts, jusqu'à la fin. Jardin d'Éden pour nous. Jusqu'à la fin. Mais j'aimerais nous dire, actuellement là, actuellement, nous sommes dans la période de l'Église. Ou encore, la période de la grâce actuellement. C'est l'occasion pour que toute personne puisse recevoir Christ. C'est l'occasion, c'est le temps que Dieu nous donne pour que l'Église puisse chercher à gagner le plus possible des gens pour que personne ne puisse se perdre. Jésus revient bientôt. Que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, il revient bientôt. Tout ce que lui désire, c'est que toi et moi, nous puissions nous préparer. C'est ce que lui désire. Alors, frères, sœurs, si Jésus revient, il reviendra premièrement. Son premier retour, c'est pour chercher son Église, son épouse, pour qui il a versé son sang. J'espère que tu fais partie de cette Église. L'Église universelle, pas l'Église locale, l'Église universelle. C'est-à-dire dans toutes les églises locales, il y a des gens qui font partie de l'Église universelle. Et ma prière, c'est qu'à la bannière, tous tels que nous sommes assis, nous puissions faire partie de cette Église. Et quand il va prendre son Église, il va avec son Église. Hein? Là-bas, quand il va partir, la Bible ne nous dit pas clairement certaines choses. Il y aura les noces de l'agneau. Hein? Ce sera la fête des noces de l'agneau. Et il y aura aussi le trône où il va maintenant nous donner nos rétributions, nos récompenses. Qui aura des couronnes? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au moins, je sais qu'il y aura un temps où Jésus va nous donner des récompenses. Mais pendant que nous allons partir, directement après, il y aura maintenant l'Antichrist qui va maintenant prendre son règne. Comment ça va se passer? Je ne sais pas aussi nous le dire, parce que la Bible ne nous dit pas clairement. Mais lorsque je regarde avec le progrès de la technologie, me démontre qu'il y a possibilité de régner sur le monde entier à partir d'un seul lieu. Je ne sais pas si vous allez me dire le contraire. Il y a possibilité. C'est déjà là des choses qui doivent nous, chrétiens, nous interpeller, nous pousser à savoir réellement, nous préparer. L'Antichrist va régner. L'Antichrist, la Bible nous dit, moi je ne parle pas des choses de ce monde, de la Bible. La Bible nous dit, quand il va venir, il va d'abord faire semblant. Mais après un certain temps, donc 3 ans et demi, parce que son règne c'est 7 ans. Après 3 ans et demi, la Bible me dit qu'il va changer de tactique. C'est en ce moment-là que les gens vont découvrir. Je reviens pas en arrière. Quand Jésus revient pour chercher son Église, la Bible dit, des deux personnes qui étaient en train même de dormir sur un même lit, une sera enlevée, l'autre restera. Maintenant, la personne qui sera restée, quand l'Antéchrist commence à faire ses histoires, cette personne va se souvenir, « Ah, maman Cécile nous avait parlé de ça un jour. » Quand il va commencer à se souvenir, c'est en ce moment-là surtout qu'on aura plus de martyrs. Parce qu'en ce moment-là, la grâce que nous avons maintenant, ça ne sera plus la même. C'est en ce moment-là qu'il y aura plus de martyrs. Tu choisis de mourir martyr. Moi, en tout cas, je ne choisis pas ça. Maintenant, quand on va faire ça, on va aller jusque maintenant après les 7 ans. Après les 7 ans, il y aura la guerre. Et après ça, Jésus va revenir pour son règne millénaire avec son Église. Comment ça va se passer? Oh, j'aimerais bien vivre ces expériences avec Jésus. Comment ça va se passer? Ça sera des moments de joie. Parce qu'on les verra, on sera avec lui. Tu seras du nombre? J'aimerais bien vraiment que tu sois du nombre. Et si possible, quand ces jours-là, quand je vais regarder, je dis, maman Françoise, tu es là? Elle aussi va dire, maman Cécile, tu es là? Est-ce que ça sera possible? La Bible ne nous dit pas tout ça, mais Dieu seul sait. Mais maintenant, quand maintenant il va revenir comme ça, après ça, il y aura encore les rassemblements des nations, il y aura la guerre, mais après ça, viendra maintenant les jugements qui concernent tout le monde. J'ai dit dès le départ, ce qu'on nous dit ici, ça concerne et les chrétiens et les païens. Maintenant, les derniers jugements, c'est là où la Bible nous dit, allons d'abord dans Jean chapitre 5, verset 9. Jean 5, verset 29, pardon. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. Et je continue avec un passage que des fois nous lisons aussi ici. Matthieu 25, 31 à 34. Matthieu 25, 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » Maintenant, tout ça, ce sont des séparations. Il y a plusieurs versets. Ce sont des séparations qui arrivent après quoi? Après les jugements. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez continuer, même il y a d'autres passages, mais le temps nous manquerait de revenir. Les jugements aura bel et bien lieu. Oui. Il aura bel et bien lieu. Mais pendant ces jugements, tous ceux qui auront connu Christ, tous ceux qui seront dans les bons, bien-aimés, la Bible dit, Jésus va dire, vous qui êtes bénis de mon Père, venez avec moi. Toi, tu seras de quel côté? C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui, tu prépares demain. Ce n'est pas demain. Après la mort, tout ce que nous allons faire, ça sera inutile. Même si nous pleurons jusqu'à nous casser en cinq, c'est inutile. Mais si aujourd'hui, tu t'es préparé pour demain, c'est une joie pour que nous puissions nous retrouver demain. Le jugement aura bel et bien lieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient les jugements. Ce n'est pas moi, c'est la parole de notre Père. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu.
Alléluia. Beaucoup de choses ont été dites. Oui, le jugement vient. C'est comme des contes. Et pourtant, c'est la réalité. Mais il y a un verset qui a retenu mon attention dans tout ce qu'elle a dit. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous. La paix avec la belle famille. On vient à l'église, mais on sabote la belle famille. Ce sont des petites choses qui vont nous faire rater le ciel. Tu dis tu es sanctifié, tu pries le Seigneur, tu viens à l'église chaque jour, mais conflictuel. Je ne vais pas encore prêcher. Frères et sœurs, es-tu touché par ces messages? Veux-tu qu'on prie pour toi? Si oui, tu peux lever la main là où tu es. Et nous allons prier. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Levez bien haut la main. Merci. Merci, soyez bénis. Alléluia. Veuillez vous lever, vous qui avez levé vos mains, là où vous êtes. Il n'y a pas de spectacle. Veuillez vous lever. Merci. Nous avons nos yeux fermés. Peut-être que tu pouvais aussi te lever. Seigneur de gloire, merci pour ta bonne parole. Tu nous avertis. Tu es un Père pour nous. Tu es notre Père. Et chaque Père veut le bonheur de son fils, de sa fille. Tu nous conseilles. Donne-nous, Seigneur, de garder ces conseils. de garder cette parole pour notre bonheur. Bénis ces amis qui sont levés, bénis toute ton église, bénis Seigneur même ceux qui suivent à travers les médias. Seigneur, que chacun de nous cherche ta face, que chacun de nous te craigne, que chacun de nous soit prêt pour te rencontrer un jour. Au nom de Jésus, bénis ta servante, où elle est encore, Seigneur. Et que, Seigneur notre Dieu, ta parole soit notre guide à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons prier pour les offrandes.
Alléluia. Amen. Baissons nos têtes, nous allons prier. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Car tu nous fais du bien. Car, Seigneur, dans ton amour, tu viens encore de nous parler ce matin.